Salut Luc.
Patrick, est-ce que tu me permets de rebondir un peu sur l'entrevue que tu viens d'avoir avec M. Smith?
Go.
Deux choses. Premièrement, c'est pas une loi, c'est une directive. Donc, ça pourrait être modifié sans que ça passe par l'Assemblée nationale, sans que ça passe par un vote. Ce n'est qu'une directive du ministère de la Santé. Alors, j'espère qu'ils ont pris bonne note puis qu'ils vont émettre une autre directive. Parce que dans le cas de cette dame, c'était pas une petite décision prise à la légère. Là, Fatima Gossa, c'est affamée et a refusé de boire et de manger.
Luc, il y a quelques années, là, les critères de l'aide médicale à mourir ont été élargis, OK, depuis la décision de la juge Beaudoin, là, en 2019. Mais avant ça, disons que tu avais, par exemple, la sclérose en plaques. Moi, j'avais parlé à la famille d'une femme, là, elle avait la sclérose en plaques, il n'y a que sa main gauche, je pense, qui bougeait encore, et elle voulait mourir, pas admissible à l'aide médicale à mourir. Elle s'est laissée mourir de faim, et Luc, je rebondis sur ce que tu dis, c'est une mort épouvantable. Épouvantable. C'est, on pense que, ouais, OK, mourir de faim. Non. Tu le sais, t'es à l'agonie très, très longtemps.
Et, moi, je n'aimerais pas que ça m'arrive, en tout cas, que ça arrive à un des miens. Et en plus, on lui servait ses repas tous les jours. On mettait un repas devant elle tous les jours pour ne pas être accusée d'avoir participé à son suicide. Et elle n'y touchait pas. Alors, si jamais... la décision avait été prise de réanimer cette personne-là puis qu'elle s'en serait sortie, ça aurait été un drame extraordinaire. Il y a deux drames là-dedans. Premièrement, tu as le droit de te suicider au Québec avec la manière la plus douloureuse qui existe. L'aide à mourir, là, ça, c'est l'aide à mourir, c'est réservé au secteur de la maladie. Si tu veux mettre fin à tes jours, comme dans son cas, parce qu'il ne lui restait plus aucune qualité de vie, on te laisse seulement une façon de le faire, puis c'est à travers la méthode la plus douloureuse qui soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu es passé à travers toute cette étape-là, il y a quelqu'un dans ta famille qui peut prendre la décision contraire. C'est ahurissant.
Écoute, je suis certain là, que quand ils ont pensé à cette directive-là, ils n'avaient pas anticipé ça, on comprend. Mais check, la coroner, je pense qu'elle a eu des mots pleins de sagesse. Il faudrait que la directive soit changée. Et tu l'as dit, puisque c'est une directive, disons que c'est un peu plus léger à changer.
Puis moi, j'ai parlé à des gens dans le milieu de la santé. Ils m'ont dit oui, mais il faut comprendre que la plupart du temps, par exemple, les médicaments qu'on donne ou les réanimations qu'on fait n'ont pas un rôle permanent. C'est-à-dire que si jamais on voulait le lendemain ou deux jours plus tard renverser la décision et dire « bon, ben là, on va la laisser mourir », c'est toujours possible. Ça, c'est vrai dans 80% des cas. Mettons, je ne sais pas le pourcentage, mais un certain nombre des cas. Mais il y a peut-être des cas aussi où tu réanimes quelqu'un suite, par exemple, à un arrêt cardiaque et il va être en condition encore plus horrible qu'il l'était avant l'animation. Mais dans la plupart des cas, la réanimation peut être réversible. Tu débranches le respirateur ou des choses comme ça dans les jours qui suivent.
OK, tu voulais me parler de François Legault qui, pour une troisième fois, là, tire à boulet rouge sur un journaliste, le journaliste Aaron Derfeld de La Gazette, c'est le journaliste de la santé.
C'est surprenant parce que Aaron Derfeld fait des articles assez placides. Il fait des articles où il parle beaucoup de chiffres, il analyse les tableaux, il analyse les pays, le comportement des pays et des autres provinces. Il est aussi très critique de ce qui se passe dans les autres provinces. Ce gars-là, c'est un gars beaucoup, beaucoup, beaucoup plus craintif que, vraisemblablement, que le premier ministre. Pour lui, les bars n'auraient jamais dû réouvrir. Les écoles ne devraient pas réouvrir tant qu'on n'a pas des systèmes d'aération acceptables dans les écoles, puisque l'aération, c'est un élément extrêmement important, plus important même que la distanciation.
Oui, disons que Derfeld erre du côté de la prudence, si on veut.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. En permanence, tout le temps. Il analyse des tableaux par région. OK, comment ça se fait qu'il y a une baisse à Montréal? Pourquoi il y a une hausse en Montérégie? Il analyse les comparaisons dans les autres provinces aussi, les hausses soudaines, etc. Je comprends mal comment M. Legault, qui est un animal politique aguerri, a choisi cette bataille-là parce que il va en faire un héros. Je regardais le nombre de likes, le nombre de retweets de M. Derfeld, puis c'est en augmentation extraordinaire depuis qu'il a commencé c'est pas la première fois que M. Legault et M. Derfeld ont maille à partir. Et ça donne beaucoup de popularité aux journalistes. Alors, c'est dur à comprendre qu'un journaliste de la trempe, un politicien de la trempe de M. Legault mette le pied dans ce piège-là.
Non, t'as raison. Je vois pas c'est quoi le gain politique. Parce que, tu sais, c'est un gros faisceau de lumière hein, que tu braques quand tu es premier ministre. Et là, il met de la lumière dessus.
Et en plus, c'est un anglophone.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Bien, c'est parce que Il a mentionné à plusieurs reprises, est-ce que les anglophones sont plus craintifs que dans sa diatribe d'aujourd'hui? Mm. Est-ce que les anglophones sont plus craintifs que les autres Québécois? Et est-ce que c'est à cause d'Aaron Derfel? Alors, tu isoles les anglophones dans un groupe à part au Québec. C'est-tu l'idée du siècle, ça, quand tu parles de maladie, quand tu parles de virus? Mm. Un virus, ça touche tout le monde de façon égale. Et de quand tu parles de perception, je trouve que là, gros but dans son propre filet.
OK, un mot sur la ligne bleue du métro. Là, on sait qu'il y a des travaux qui sont prévus, mais le ministre des Transports, François Bonnardel, là, a jeté une petite douche d'eau chaude, d'eau froide là-dessus.
Ben oui, il annonce que 500 dossiers qui sont en suspens, des dossiers d'expropriation, parce que la loi québécoise est une loi très particulière qui exige la négociation avec le propriétaire sur la base de la valeur perçue par le propriétaire et non pas la valeur marchande. Alors, le propriétaire peut dire « Oui, moi, je voulais construire des tours de 10 étages dans mon parking et donc la valeur s'étend. » Alors, les dossiers s'étirent et on sent que ça y aura pas de fin à ça. Ils avaient voulu, avec la loi 61, sursoir à l'exercice de négociation sur les expropriations. La loi 61 est tombée et là, ils sont allés en négociation normale. Là, ils vont être obligés de mettre une autre loi en place pour s'ils veulent construire cette ligne-là. Mais on sent de la retenue, beaucoup de retenue de la part du ministère du Transport pour annoncer que ça va aller de l'avant. Il n'y a pas dit ça. Là. D'habitude, on a des déclarations de ministres. Faites-vous en pas, on va régler le problème, on va aller de l'avant. On a entendu ça plusieurs fois dans la bouche de Bonnardel quand, par exemple, il parlait du troisième lien. Quelles soient les tuiles qui tombaient sur le projet, non, c'est pas grave. Là, au contraire, il dit « Oups, danger ». Et moi, je lis là-dedans une incapacité de rêver l'Est de Montréal. Et l'Est de Montréal, grand perdant de la région métropolitaine au complet, pas juste de la ville de Montréal, mais de la région métropolitaine au complet, on vit une forme de rejet, de désamour depuis des années. Puis aussi là-dedans, beaucoup d'élites aussi qui se carrent dans leur but. Hein. Moi, je pense que l'Est a accepté des projets industriels dévastateurs sur la base de la création de quelques emplois. Il faut se remettre à aimer l'Est, à avoir une reconquête de ses rives, la rivière des Prairies, le fleuve Saint-Laurent, avoir des corridors de biodiversité qui la traversent. Il faut s'éloigner d'une certaine forme de développement industriel, quel qu'il soit. Et la ville a fait le contraire au début du mandat, là, a donné l'autorisation de transformer un golf en terrain industriel. Sous prétexte qu'il y avait un gars qui se promenait avec un projet tout croche dans ses poches qui disait que lui allait faire je sais pas combien de milliers d'emplois. On a accepté un zonage industriel. On n'aurait jamais dû faire ça. Il faut se mettre à rêver l'Est différemment que comme l'ancien lieu de la pétrochimie puis l'actuel lieu de tous les mauvais projets industriels de l'île.
Puis tu sais, Luc, je sais que les projets de transport en commun, ça fait dresser les cheveux sur la tête parce que ça coûte cher. Il y a souvent des dépassements de coûts. Mais la question qu'il faut se poser aussi, c'est si on le fait pas, combien ça va coûter dans 25 ans? T'sais, imagines-tu s'il n'y avait pas le métro de Laval présentement?
Ben, écoute, c'est clair que ça se fera jamais. Si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera jamais. Puis tu as raison, rappelle-toi, le métro de Laval avait été annoncé à 180 millions de dollars. Il est sorti à 800 millions. Quand il l'a annoncé à 180 millions, il savait très bien pourquoi il faisait. Il savait très bien que c'était sous-estimé. Il s'était trompé d'ailleurs dans la mesure du nombre de kilomètres, de 1 kilomètre. Hein, ça, c'est quand même fort, se tromper d'un kilomètre dans la planification d'un projet comme ça. Mais il savait qu'il valait mieux le sortir à faire des évaluations très peu chères pour que ça passe, puis après ça, faire face aux coûts. C'est la même chose d'ailleurs avec la caisse de dépôt et de placement et son recouvrement de l'autoroute. C'est des fois, il y a des projets où le gouvernement veut absolument aller de l'avant. Il faut qu'il aille de l'avant. S'il n'y avait pas eu la caisse de dépôt et de placement, là où elle est en ce moment, si on n'avait pas recouvert l'autoroute, on aurait une énorme cicatrice d'autoroute entre le Vieux-Montréal et le centre-ville. S'il n'y avait pas le métro de Laval, t'as raison, on aurait... la popularité du métro de Laval, là, c'était 10 fois plus important que les prévisions qui ont été faites. Il y aurait un trafic aujourd'hui qui serait impossible. Moi, j'aime rappeler aux gens que si on n'avait pas de métro à Montréal, il faudrait qu'on ait l'équivalent de 10 nouveaux autoroutes métropolitaines, 10 nouvelles autoroutes métropolitaines. 10 fois. La capacité du métro, c'est 10 fois la métropolitaine. Imagine-toi de quoi ça aurait l'air à Montréal.
Je vais te faire une traduction, Luc. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas prendre le transport en commun, qui disent « Moi, je préfère prendre l'auto, etc. » Moi, je le vois pas vraiment, pas toujours, en tout cas, auto contre transport en commun. Si t'aimes ça, prendre ton auto, tu devrais vouloir qu'il y ait du transport en commun parce que s'il y en a pas, il va y avoir encore plus de chars, puis tu vas attendre encore plus longtemps.
Ah oui, tu vas attendre sur un vrai temps, là. Je veux dire, écoute, il faut voir le trafic dans le métro pour comprendre ce que ça veut dire, là. Tu sais, c'est milliers de personnes qui sortent dans une seule heure à Berry-UQAM ou à Place Victoria ou à Place Bonaventure. Tu mets une voiture à la place de chacune de ces personnes-là, puis la ville est invivable. Alors, la ligne bleue, oui. Maintenant, le prix est extrêmement élevé et avec les expropriations, il va falloir que... J'ai hâte de voir comment ça va se résoudre. Et on va suivre ça avec attention, mais ça prend aussi un rêve pour l'Est de Montréal. Ça peut pas juste être des centres d'achat, ça peut pas juste être les galeries d'Anjou, de la pétrochimie, puis de l'industrie. Là. Et il faut rêver Rivière-des-Prairies, il faut repenser différemment Montréal-Nord, il faut rêver Saint-Léonard et Anjou, il faut continuer de rêver pour Hochelaga-Maisonneuve. Là, il y a encore le ministère du Transport qui va passer une autoroute à travers Hochelaga-Maisonneuve. Moi, ça m'enrage. J'ai vu Hydro-Québec construire 5 lignes de haute tension à travers un grand parc de Montréal à la Pointe-des-Prairies. C'est enrageant. Faut que ça arrête, faut qu'on se mette à aimer l'Est de Montréal.
Calme-toi, puis va rêver, on se reparle demain.
À demain.
17h29, Pierre-Yves Maxouin s'en vient.